Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très, très importante étude concernant la rédemption. Nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 25 et le titre sera « Enseignement pratique que nous donnent les faits précédents ». Chers amis, maintenant que nous avons montré comment l'œuvre de la rédemption s'est poursuivie depuis la chute de l'homme jusqu'au temps présent, avant d'aller plus loin, je ferai quelques applications. De ce qui a été dit, nous pouvons conclure que la religion chrétienne est la vérité et que les saintes écritures sont la sainte parole de Dieu. On peut surtout présenter trois arguments. On peut argumenter de l'opposition violente et invétérée que ce monde mauvais a toujours faite à cette religion. La religion que l'Église de Dieu a professée dès le commencement, bien que les dispensations aient changé, a toujours été la même pour l'essentiel. L'Église de Dieu, dès le commencement, n'a formé qu'une seule société. C'est l'Église chrétienne, et l'Église chrétienne est évidemment la continuation de la même société qui existait avant la venue de Jésus-Christ. Elle a été hantée sur le même tronc. Elle a été posée sur le même fondement. La révélation dont elles dépendent toutes les deux est essentiellement le thème qui est la même. Car si, voyez-vous, si l'Église chrétienne, elle est vraiment fondée sur les saintes Écritures, l'Église juive l'était également. Bien que les saintes Écritures aient été augmentées par l'addition du Nouveau Testament, c'est cependant toujours la même révélation qui avait été faite dans l'Ancien Testament. Seulement, les choses sur lesquelles porte la révélation ont été plus clairement révélées dans le Nouveau qu'elles ne l'avaient été dans l'Ancien. Le sommaire des deux testaments, donc, de l'Ancien comme du Nouveau, c'est Jésus-Christ et sa rédemption. L'œuvre fondamentale de la religion de l'Église de Dieu avant et depuis l'apparition de Christ est le même grand plan de rédemption par le Fils de Dieu. L'Église antérieure à celle d'Israël était encore la même. Elle professait et pratiquait essentiellement la même religion. Il en fut ainsi depuis Noé jusqu'à Abraham, de même qu'avant le déluge. Oui, avant le déluge. Car l'Église était alors édifiée sur le fondement des révélations de Christ qui a été faite à Adam et à Enoch. Ou Enoch, ça dépend tout la prononciation. De sorte que l'Église de Dieu a toujours été fondée sur ces révélations divines qui ont été toujours les mêmes pour l'essentiel et qui sont contenues d'une manière sommaire dans les Saintes Écritures. Depuis le temps de Moïse, l'Église a toujours été fondée sur les Saintes Écritures. Personne ne peut nier que l'Église de Dieu n'ait toujours rencontré une grande opposition dans le monde. On le voit très clairement dans l'histoire profane, aussi loin qu'elle remonte, et pour les temps antérieurs, l'histoire sacrée atteste exactement la même chose. L'Église de Dieu, sa religion et son culte ont commencé à rencontrer de l'opposition du temps déjà de Caïn et de Abel. Il en fut de même quand la terre se trouva pleine de violence du temps de Noé. Après cela, quelle opposition ne rencontra-t-elle pas en Égypte ? Et comme Israël a été toujours haï par les nations environnantes. Et après la captivité de Babylone, comme cette église a été persécutée par Antiochus Épiphane et d'autres, et Christ, pendant qu'il a été sur la terre, quelle persécution n'a-t-il pas rencontré ? Et comme les apôtres et d'autres chrétiens ont eu à souffrir de la part des Juifs avant la destruction de Jérusalem par les Romains, de quelle violence ce peuple n'usa-t-il pas envers l'Église ? Avant Constantin, combien terrible fut l'opposition du monde païen contre l'Église chrétienne ? Combien grande fut leur haine contre la vraie religion ? On peut dire aussi à la place de religion la vraie foi. Ça serait meilleur. Il n'y a pas d'exemple d'une opposition semblable. L'histoire ne fait pas mention d'homme qui ait été si haï, poursuivi ainsi sans relâche, ni de rien de semblable. Il n'y a pas d'autre religion qui ait ainsi été mal vue d'âge en âge. Les nations qui avaient d'autres croyances, ils ont pu professer leur religion en repos et en tranquillité, tout en différant de leurs voisins. Une nation a adoré certains dieux, certains idoles, d'autres certains autres, sans qu'elles se soient persécutées les unes les autres à ce sujet-là. Donc toute la haine et toute l'opposition ont été réservées pour la religion professée par l'Église de Christ. Toutes les autres religions ont déployé envers elle une inimitié implacable et d'âge en âge. Les hommes ont ressenti une telle haine contre elle qu'il a semblé qu'ils ne pourraient jamais satisfaire leur cruauté. Ils se sont torturés l'esprit afin de découvrir des tourments assez cruels. Et pourtant, après tout, ils n'ont jamais eu l'air d'être satisfaits. Ils n'ont jamais été désaltérés de sang. Que cette religion et ses écritures aient toujours rencontré dans le monde une grande opposition, c'est ce que personne ne mettra en doute. Il ne reste plus qu'une seule question. D'où est venue cette opposition-là ? Est-elle provenue de la méchanceté et de la corruption du monde ou non ? On ne peut pas non plus entretenir le moindre doute à cet égard. Si nous considérons que cette cruauté a toujours été sans cause, si nous songeons à ce que ont été les opposants et le genre de leur opposition, l'opposition est venue principalement de la part du paganisme et de la papauté, qui sont, comme les déistes eux-mêmes le reconnaissent du reste, qui sont les fruits de l'ignorance et de la corruption humaine. La lumière naturelle montre que la religion des païens, qui consiste dans le culte des idoles, dans le sacrifice des enfants et dans des cérémonies et des rites obscènes, est une abomination. Et les superstitions, les idolâtries, les usurpations de l'Église de Rome ne sont pas moins contraires à la lumière naturelle. Tout cela nous montre que cette opposition contre l'Église de Dieu a procédé d'hommes méchants. Pour ce qui est de l'opposition des Juifs du temps de Christ et des apôtres, elle a eu lieu à une époque où cette nation était très corrompue, alors que le peuple, en général, était devenu très méchant, comme, du reste, plusieurs auteurs juifs. Et même le fameux Joseph, Josephus, et d'autres qui vivaient en ce temps-là, le déclarent expressément. Et que cette opposition était dictée exclusivement par la méchanceté. C'est ce que l'on voit clairement par la manière dont elle s'est manifestée. La violence extrême, l'injustice et les cruautés avec lesquelles l'Église de Dieu a été traitée, tout cela semble indiquer l'action des esprits infernaux. Pourquoi les ennemis de Christ, pendant un millier d'années, auraient-ils montré une haine mortelle contre cette religion, si ce n'est parce que c'est la cause de Dieu? Si les Saintes Écritures ne sont pas la sainte parole de Dieu, si la religion de l'Église chrétienne n'est pas la vraie religion, il s'ensuit que c'est une très mauvaise religion, rien d'autre que des mensonges et des fraudes abominables inventées par les ennemis de Dieu. Et s'il en était vraiment ainsi, il n'est pas probable que les ennemis de Dieu et le monde méchant auraient ainsi nourri contre elle une inimitié constante et si implacable. Un grand argument pour montrer que l'Église chrétienne et sa religion sont bien de Dieu, c'est le fait de sa préservation jusqu'à aujourd'hui, et cela malgré l'opposition et les dangers. Le fait que l'Église de Dieu est vraiment la véritable religion a rencontré une opposition si permanente et si violente qu'on a si souvent essayé vraiment de les détruire, et que pendant plus de 10 000 ans, on peut dire, on les a menacés de ruine. Elles ont été préservées malgré tout, et cela montre bien d'une manière remarquable que le doigt de Dieu est intervenu en leur faveur. Voyez-vous, si on considère ce fait comme il convient, on verra que c'est un miracle des plus remarquables. On n'a jamais vu rien de semblable sur la face de la terre. On n'a vu aucune autre société humaine qui se soit maintenue comme l'Église. Le monde avant le déluge a été détruit par les eaux. Mais l'Église de Dieu, elle, a été préservée. Le royaume visible de Satan sur la terre a été aussi une première fois renversé, mais le royaume visible de Christ ne le fut jamais. Tous les anciens royaumes, les monarchies dont il est parlé dans l'histoire, ont disparu depuis longtemps, tels que les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Incas, les Mayas, etc. Le grand empire de la glorieuse Babylone fut renversé par les Perses, celui des Perses à son tour par les Grecs. Après quoi, l'empire romain supplanta celui des Grecs pour succomber lui-même aux attaques des diverses nations barbares. Nous voyons donc un remarquable accomplissement du texte qui dit: car la taine les rongera comme un vêtement, et le ver les dévorera comme la laine. Mais ma justice, elle demeurera toujours, et mon salut dans tous les âges. Ésaïe, chapitre 51, verset 8. Or, l'Église de Dieu, elle subsiste toujours. Alléluia. On n'a jamais vu des efforts si puissants et si nombreux pour détruire quoi que ce soit que pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Des royaumes et des sociétés humaines qui paraissaient avoir 10 fois autant de force que l'Église ont été détruites par 1/100 de l'opposition que l'Église de Dieu a rencontrée. Cela montre bel et bien que c'est Dieu qui a été son protecteur, car il est très clair qu'elle ne s'est maintenue par sa propre force. Vraiment, elle ne s'est pas, vous l'avez compris, et jamais maintenue par sa propre force. Donc, en général, elle a été une société très faible. Voyez-vous, les Israélites n'étaient, on peut dire, qu'une poignée d'hommes, souvent comparés aux multitudes qui ont cherché souvent à les détruire. Aujourd'hui, c'est absolument pareil. Aussi du temps de Jésus-Christ et au commencement de son Église, les disciples n'étaient qu'un résidu. De même, au commencement de l'Église des non-juifs, ils n'étaient qu'un tout petit nombre comparé aux païens qui cherchaient à les détruire. Dans les époques ténébreuses qui ont précédé la Réformation, ils n'étaient qu'une poignée d'hommes. Toutefois, leurs ennemis n'ont jamais pu les détruire. En général, les ennemis de l'Église n'ont pas eu seulement la majorité, mais ils ont eu pour eux également toute la force, la puissance. Presque toujours, ils ont eu l'autorité civile de leur côté. Ainsi, en Égypte, l'autorité civile était pour les Égyptiens et les membres de l'Église n'étaient que leurs esclaves. Et toutefois, ils n'ont pas pu les détruire. Il en fut de même du temps de Antiochus Épiphane et de Julien l'Apostat. L'autorité était du côté des persécuteurs. L'Église était en leur pouvoir. Et pourtant, malgré toute leur cruauté, ils n'ont jamais réussi à les détruire. Du temps des persécutions juives, avant la destruction de Jérusalem par les Romains, et du temps des persécutions païennes, avant Constantin, les chrétiens n'ont fait aucune résistance. Il en a été de même dans les persécutions catholiques romaines, et pourtant, on n'a jamais réussi à détruire l'Église de Dieu. Elle existe jusqu'à ce jour. Et cela paraît d'autant plus admirable si nous rappelons combien souvent l'Église de Dieu a été sur le penchant de sa ruine, que de fois sa position a semblé désespérée. Du temps de l'Ancien Monde, alors que la méchanceté prévalait au point qu'il n'y avait plus qu'une famille qui avait été laissée, Dieu avait agi d'une manière miraculeuse. Il a bouleversé le monde par un déluge et il a préservé son Église. Près de la mer Rouge, rappelez-vous, alors que Pharaon et son armée se croyaient sûrs de leur proie, Dieu apparut et Dieu les détruisit et délivra son Église. Sous la 6e et dernière persécution païenne, ses ennemis se sont flattés d'avoir achevé l'œuvre et d'en avoir fini avec l'Église chrétienne. Et pourtant, au milieu de leur triomphe, elle se releva, se raffermit, et l'empire païen est tombé en ruine devant elle. De même, quand l'Église chrétienne semblait sur le point d'être engloutie par l'hérésie arienne, et lorsque les pouvoirs soumis à la papauté ont comploté la ruine de l'Église réformée, et qu'ils semblaient sur le point d'atteindre leur but, Dieu apparut d'une manière admirable pour la délivrance de son Église, comme cela a eu lieu lors de la Révolution d'Angleterre sous Guillaume III. Dieu a fait surtout fleurir son Église après les temps les plus ténébreux. Si une pareille conservation de l'Église de Dieu depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, accompagnée de telles circonstances, ne suffit pas pour montrer l'intervention de Dieu tout en sa faveur, qu'est-ce qui suffira? Mais si ce secours est venu de Dieu, alors il témoigne que l'Église, la Révélation et les Saintes Écritures sont de lui, d'où il résulte que la religion chrétienne est la vraie religion, la religion de Dieu, et que les Saintes Écritures sont sa sainte parole. Nous pouvons dire encore, en faveur des Saintes Écritures, que Dieu a accompli les choses qu'elles prédisent. J'ai déjà fait observer, d'une manière générale, dans le cours de ces études, comment les prophéties de l'Écriture sainte se sont accomplies. J'en citerai maintenant deux exemples. Premièrement, je viens de montrer quelle preuve se fait de la préservation de l'Église considérée en lui-même et que nous fournit l'autorité des Saintes Écritures. Je le montre maintenant comme un accomplissement des prophéties. Ce fait est abondamment prédit et promis dans les Saintes Écritures et particulièrement dans notre texte. Il y est annoncé que d'autres choses tomberont en ruine, que des royaumes, que des monarchies qui s'y opposeront seront réduites à rien. La teigne les rongera comme un vêtement et le ver les dévorera comme la laine. Il est prédit ici que l'alliance de grâce de Dieu avec son Église durerait à jamais et il en a toujours été ainsi jusqu'à nos jours, bien que l'Église ait eu à passer par beaucoup de dangers. La même promesse est faite selon Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Nulle arme formée contre toi ne prospéreront, et tu convaincras de malice toute langue qui se sera élevée contre toi en jugement. Et encore, notez Ésaïe, verset 14 à 16, toujours du chapitre 54. Il est dit, mais Sion a dit, l'Éternel m'a délaissé et le Seigneur m'a oublié. Or, la femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait, en sorte qu'elle n'ait point pitié du fils de son ventre? Mais comme les femmes les auraient oubliés, encore ne t'oublierai-je pas. Moi qui suis ton Dieu. Alléluia. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tes murs sont continuellement devant moi. La même chose est de nouveau promise en Ésaïe chapitre 59, verset 21 et chapitre 63, verset 1 et 2 et ajouter Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3. Christ Jésus a fait aussi la même promesse quand il a dit que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Or, si cela ne vient pas de Dieu, si les saintes Écritures ne sont pas sa sainte parole, et si l'Église bâtie sur le fondement de cette parole n'est pas de Dieu, comment les personnes qui ont prédit ces choses ont-elles pu les connaître? Voyez-vous, si l'Église n'est pas de Dieu, c'était une chose très improbable. Ils annoncèrent une grande opposition et des dangers, que d'autres royaumes seraient par exemple réduits à rien et que l'Église en viendrait sur le point d'être presque entièrement détruite et que pourtant elle subsisterait toujours. Comment pouvait-il prévoir, chers amis, une chose si peu vraisemblable, si ce n'est par l'inspiration divine? L'autre exemple remarquable, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Écriture sainte concernant l'Antéchrist. Elle prédit le mode de son apparition. Il ne viendra ni de parmi les païens, ni de parmi les nations qui n'ont jamais professé le christianisme, mais il sortira de l'Église chrétienne qui s'adonnera à la corruption, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Et il est prophétisé que cet homme de péché s'établira dans le temple ou l'église visible de Dieu en prétendant d'être revêtu du pouvoir divin, et cela en qualité de chef de l'Église. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Il est aussi dit que l'apparition de l'Antéchrist serait graduelle. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Car déjà, le mystère d'iniquité se met en train, seulement celui qui obtiendra jusqu'à ce qu'il soit aboli. De plus, il est prédit de ce grand ennemi de l'Église chrétienne qu'il serait un grand prince, un monarque de l'Empire romain, ni russe, ni chinois. Aussi est-il présenté dans Daniel comme une corne de la quatrième bête ou quatre monarchies, comme l'ange l'explique. Notez Daniel, chapitre 7. Il est même parlé d'une ville qui devrait être le siège de ce pouvoir. Il est dit expressément que la prostituée spirituelle ou fausse église auront son siège sur sept montagnes ou collines. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Révélation, donc, dit Offenbarung, que nous nommons en français Apocalypse, chapitre 17, verset 9. La femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a son règne sur les rois de la terre. À nouveau, Apocalypse, chapitre 17, verset 18. De plus, il est dit que cet Antéchrist régnerait sur les peuples, sur les multitudes, sur les nations et les langues. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et que toute la terre, étant dans l'admiration, irait après la bête. Il fut prédit qu'il se ferait remarquer par son orgueil, qu'il se vanterait de grandes choses et élèverait de très hautes prétentions, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu, au temple de Dieu, voulant se faire passer pour Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut donné aussi le pouvoir d'accomplir 42 mois, d'accomplir cela pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Il est dit de la petite icône qu'elle a une bouche disant de grandes choses et que son apparence est plus grande que celle de ses compagnes. Daniel chapitre 7, verset 8 et 20. Il fut aussi prophétisé que l'Antéchrist serait un grand persécuteur. Voyez-vous, on a en Amérique un nouveau président depuis peu de temps, Donald Trump. Un autre en France, un nommé Macron. La marche en avant. Mais vous constaterez souvent qu'il y a beaucoup d'orgueil. Bref, revenons à notre étude. Cette corne a fait la guerre aux saints et elle a été victorieuse. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Daniel chapitre 7, verset 21. Et j'ai vu la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Apocalypse chapitre 17, verset 6. Il est dit de plus, et voici, il y avait en cette corne des yeux semblables aux yeux d'un homme. Daniel chapitre 7, verset 8. Et cette corne-là avait des yeux. Daniel chapitre 7, verset 20. Il fut annoncé que les rois de la chrétienté seraient soumis à l'Antéchrist. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils prendront puissance comme rois avec la bête. Ceux-ci ont un même destin et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13. Il fut annoncé qu'elle ferait de prétendus miracles. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan en toute puissance, en prodige et en miracle de mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et elle faisait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel devant les hommes sur la terre. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés de faire devant la bête, commandant ainsi aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui néanmoins était vivante. Apocalypse chapitre 13, verset 14. Il fut prédit qu'elle défendrait de se marier et ordonnerait de s'abstenir des viandes. Défendant de se marier, commandement de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour les fidèles et pour ceux qui ont connu la vérité, afin d'en user avec des actions de grâce. Selon 1 Timothée, chapitre 4, verset 3. Le système vegan, c'est le début de cette philosophie. Il fut prédit qu'elle serait très riche et qu'elle atteindrait un haut degré de splendeur et de gloire terrestre. et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or. Die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 17, verset 4, et ajouté, toujours Apocalypse chapitre 13, oui, 13, 15, non, excusez-moi. Donc, je répète, parce que j'ai fait une erreur de commenter un chapitre que j'aurais dû vous dire correctement. Donc, tout d'abord, notez Apocalypse chapitre 17, verset 4, et maintenant, ajoutez Apocalypse chapitre 18, oui, 18, versets 7, 12, 13 et 16. Donc, premièrement, c'est Apocalypse chapitre 17, verset 4, c'est ça. Apocalypse chapitre 17, verset 4, et ajouter Apocalypse, die Offenbarung, chapitre 18, verset 7, verset 12, verset 13 et verset 16. Je vous demande pardon de cette hésitation, parce que il est important de noter ces indications bibliques pour que vous puissiez vérifier que ce que je vous dis n'est pas une philosophie propre de mon cru, mais bien la sainte parole de Dieu. Je dois faire attention à cela, car j'en serai tenu pour responsable. C'est donc pas une plaisanterie. Chers amis, il fut prédit qu'elle défendrait d'acheter ou de vendre à tous ceux qui n'auraient pas son signe. J'ajoute que c'est le 666. C'est moi qui l'ajoute. Et qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Toujours dit Offenbarung, Apocalypse, chapitre 13, c'est bien ça, verset 17. Et il fut prédit qu'elle trafiquerait même les âmes des hommes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est écrit. Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Et en énumérant ces articles de commerce, la parole mentionne des âmes d'hommes. Il fut donc prédit que l'Antéchrist ne permettrait pas qu'on enterrerait les corps du peuple de Dieu, les vrais croyants, et leurs corps morts seront étendus dans la place de la grande cité, etc. Et ils ne permettront pas que leurs corps morts soient mis dans les sépulcres. Toujours Apocalypse chapitre 11, versets 8 et 9. Je pourrais mentionner plusieurs autres choses, et je pourrais montrer par l'histoire leur exact accomplissement. Quelle forte preuve que les saintes Écritures sont bel et bien, sont vraiment la sainte parole de Dieu. Du reste, à la fin de cette étude, je vous dirai que vous pouvez trouver toute une série de prophéties qui vont de loin compléter ce que vous venez d'entendre. C'est donc très très important pour vous qui essayez de comprendre ces choses d'une façon profonde et pour être prêt à tout ce qui va arriver maintenant. Bientôt. Deuxièmement, d'après ce qui a été dit, nous pouvons apprendre ce que est l'esprit du vrai christianisme. C'est un esprit de souffrance, hélas. En voyant que Dieu, dans sa providence, a déterminé que l'Église serait pendant si longtemps dans un état de souffrance, souvent même si extrême, nous pouvons conclure que l'esprit de la vraie Église est un esprit de souffrance. Autrement, Dieu ne lui aurait jamais assigné tant de douleurs en partage, car il est hors de doute que Dieu détermine pour l'Église des circonstances en accord avec l'esprit de souffrance qu'il lui a donné. Il n'y a donc rien de surprenant que Christ ait si souvent inculqué à ses disciples le devoir de renoncer à eux-mêmes. Oui, nous ne devons pas avoir peur que nous devons parfois renoncer à certaines choses et de se charger de notre croix si nous voulons survivre. Simplement dire que Jésus a porté la croix pour nous une fois pour toutes, c'est un peu léger et c'est pas la stricte parole de Dieu. Si vous relisez et vous étudiez correctement tous les évangiles et tout le Nouveau Testament, vous verrez que malheureusement, si nous sommes des véritables chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau, eh bien, nous aurons parfois quelques problèmes. J'en dirai pas plus. Et quelles dispositions, chers amis, l'Église a-t-elle manifestées au milieu de toutes ces souffrances ? Elle a préféré, au milieu de ces terribles persécutions par lesquelles elle a dû passer, elle a dû se soumettre à des tourments cruels, et elle a dû renoncer à tout pour conserver la perle de grand prix. Elle a dû souffrir tout ce que ses ennemis les plus cruels pouvaient lui faire, plutôt que de renier Christ et sa religion. Je dirais, et la foi profonde de la foi chrétienne. L'histoire nous offre donc un grand nombre de cas remarquables et nous présente une nuée de témoins. Cela prouve surabondamment qu'il est nécessaire d'être prêt à tout abandonner pour Christ, à renoncer à notre tranquillité, à nos intérêts terrestres, à notre bonheur, à tout, pour lui et pour l'Évangile. C'est pas drôle, j'en conviens. Je m'excuse, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Demandons-nous, chers amis, si nous sommes animés de cet esprit-là, qu'arrivera-t-il quand nous sommes mis à l'épreuve ? Nous montrons-nous disposés à renoncer à nous-mêmes et à nos avantages terrestres et à passer par la tribulation auquel nous sommes providentiellement appelés ? Hélas, que nos épreuves sont peu de choses comparées à celles de plusieurs de nos frères et sœurs dans les siècles passés. Et c'est le cas de dire avec Jérémie, chapitre 12, verset 5. Et troisièmement, pour terminer, cela nous enseigne quelle grande raison nous avons d'attendre avec confiance l'accomplissement des choses qui sont annoncées dans l'Écriture sainte et qui ne sont pas encore accomplies. L'Écriture sainte annonce plusieurs grandes choses qui doivent avoir leur accomplissement avant la fin du monde. Que vous le croyez ou pas, il y a déjà des milliers de personnes qui ont une puce insérée sous la peau de la main ou de l'avant-bras, certains, et ils peuvent donc faire fonctionner tous les appareils inimaginables qu'on a aujourd'hui. Voyez, on y arrive. On dirait que nous sommes maintenant bien loin de l'état de choses prédit dans l'Écriture sainte. Toutefois, nous avons tout lieu de croire que malgré les difficultés apparentes, ces choses s'accompliront et bientôt. Nous voyons que jusqu'à présent, Dieu a fidèlement rempli ses promesses, qu'il a été fidèle envers son Église et qu'il s'est souvenu de sa miséricorde de génération en génération. À l'égard de ce que Dieu a fait jusqu'à présent pour son Église, nous pouvons dire comme Josué aux enfants d'Israël, « Or voici, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre, et vous connaîtrez dans tout votre cœur et dans toute votre âme qu'il n'est point tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a dites de vous. Tout vous est arrivé, il n'en est pas tombé un seul mot. Mais toutes les choses ont eu lieu jusqu'ici, conformément à la prédication et à la prédiction surtout divine. Cela devrait donc fortifier notre foi en ses promesses. Et cela devrait nous encourager et nous pousser à prier Dieu pour l'accomplissement des grandes et belles choses qui n'ont pas encore été accomplies, mais qui sont sur le point de nous arriver. Chers amis, pour ceux que les prophéties de la fin des temps intéressent vraiment, eh bien, dans notre étude actuelle, nous nous sommes seulement occupés surtout de la rédemption. Or, sur Internet, 3xW, donc www, Bible explique en un seul mot, .ch. Vous trouverez beaucoup plus de précisions concernant la dispensation des jugements. Or, là, vous aurez toute la série des prophéties qui compléteront ce que vous venez d'entendre. Très, très important pour ceux qui cherchent et qui veulent se préparer, car ce qui va arriver n'est pas très loin. Pas très loin. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement et aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. C'est très doucement que Jésus vous parle. Écoutez sa voix. N'écoutez pas les voix du monde, mais seulement la douce voix divine. Écoutez, et vous ne serez jamais déçus. Écoutez, et vos esprits inquiets, vos nerfs fatigués, connaîtront le repos. La voix divine, elle s'entend plus sûrement dans la tendre intimité que dans la tête ou dans le tête-à-tête bouleversant, dans la détente intérieure que dans la crispation de l'effort. Mais c'est pour que sa puissance devienne votre, qu'elle puisse devenir votre puissance, que vos plaies sont guéries et que vous êtes revêtus de force dans vos moments de tendre intimité et de commerce paisible avec lui, avec Jésus-Christ. Car la puissance de l'homme est comme de l'argile au regard du granit de sa puissance. Jésus-Christ vous entoure de toute sa sollicitude. Ne vous croyez jamais à la merci du monde. Nuit et jour, ses anges, ils veillent sur vous, et aucun mal ne saurait vous atteindre. Vous déborderiez de gratitude si vous saviez combien souvent il détourne de vous les dards de la colère et du mal. En vérité, remerciez le Seigneur de tous les dangers inconnus, invisibles, dont il vous préserve. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous achevons encore une journée. Nous sommes plus près du terme de notre vie que nous le l'étions au matin. Chaque heure qui s'écoule est un pas de plus fait vers la tombe et vers l'éternité qui nous attend. Cette pensée devrait être celle de tous nos instants, afin que nous en puissions avoir un cœur sage et que nous ne vivions pas pour ce monde seulement. Mais à ce moment où nous protesterons devant toi, elle doit saisir encore plus vivement nos âmes et nous rendre attentifs et sérieux. Dans peu d'instants, nous irons nous étendre sur notre couche et le sommeil fermera nos yeux. Mais un jour, qui peut-être est bien près pour chacun de nous, ou plus près que nous pensons, nous y entendrons encore et nous nous étendrons encore une fois, mais pour ne plus nous relever. La mort glacera alors nos membres et elle les rendra immobiles. Nos yeux se fermeront pour ne plus se rouvrir qu'au jour redoutable de la résurrection. Ô Dieu, que la certitude de cette heure solennelle nous fasse dès maintenant recourir à ta grâce et au salut que tu daignes nous offrir. Que ce soit pour mourir avec espoir, avec confiance et paix que nous vivons dès à présent. Car savons-nous à quelle heure notre âme devra paraître devant toi? Puisse donc la pensée de notre dernier sommeil toujours occuper nos âmes lorsque nous allons nous livrer au repos. Esprit Saint de paix et de pureté, viens agir dans nos cœurs et les garder par ton pouvoir. Esprit de vérité, dissipe nos doutes, nos craintes et subjugue notre incrédulité. Esprit consolateur, apaise nos souffrances et adoucis nos afflictions, ôte à nos larmes l'amertume qui déchire le cœur. Seigneur, aie pitié de nous et attire-nous à toi. Sauveur de nos âmes, sois notre appui et dans la vie et dans la mort. Nous nous remettons avec un abandon filial entre tes mains divines. Dispose donc de nous selon ta volonté, mais préserve-nous du malheur de t'offenser. Que toutes choses, même les songes de la nuit, concourent à nous rapprocher de toi. Seigneur, protège tes faibles enfants et bénis-les dans ta miséricorde. Amen. Amen. Et maintenant, je veux essayer de vous mettre un ou deux chants d'un assez lointain passé, 1962, et évidemment, en ce temps-là, il n'y avait ni cassette, ni CD. J'avais enregistré cela avec un appareil à bande. Essayons.
Okay, people, now we're going to practice what we've been preaching. Jesus says, if any two of you agree about anything you ask for, my Father in heaven will do it for you. So, ask using my name, and you will receive. Whatever you need from God, let other members of Christ's body right here agree in prayer with you. Or maybe there's somebody you need to forgive or go confess something to. Well, now is the time to obey God and do it while we're all here together. Let's stand so you can move around if you need to, or gather with five or six people near where you are and pray for each other. Let's minister now in the power and the authority of Jesus' name.
Blessed be.
It could be that some of you here don't know the one who binds us together. Well, let us introduce you to him.
He has healed us with his stripes.